Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre émission En Thème Facile. En Thème Facile, c'est une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé, de même que sur le vocabulaire médical et paramédical. Le thème du jour est intitulé Éclampsie, l'essentiel en thème facile. Et pour en parler, nous recevons en duplex Dr Fidewonu Komla Agosu. Il est gynécologue et responsable de la clinique Sévi située à Gbadjoumédé dans la ville de Cotonou au Bénin. C'est quoi une éclampsie? C'est la question que nous avons posée à quelques citoyens de Cotonou. Voici leur réponse.
Je n'ai pas vraiment connu des gens qui ont souffert de ça. Ce que j'ai lu ça et là, je sais juste que ça peut causer la perte de l'enfant ainsi que la mort de la femme enceinte si rien n'est fait.
C'est des convulsions pendant la grossesse ou juste après la grossesse. Et ça peut se manifester suite à une hypertension artérielle, un excès de protéines dans l'urine.
L'éclampsie est une pathologie très grave survenant en fin de grossesse, généralement dans le troisième trimestre ou dans la 20e semaine après la menstruation ou après l'accouchement. Elle se traduit par des convulsions chez la femme enceinte qui présente une hypertension artérielle et a un excès de protéines dans les urines de la femme enceinte.
Alors, docteur Fidewonu Komla Agosu, vous avez suivi nos amis. Ils ont chacun essayé de définir l'éclampsie, même si on a senti que certains lisaient carrément la réponse. Mais comme vous êtes le spécialiste, on vous laisse apporter plus de précisions.
Alors, c'est quoi l'éclampsie? L'éclampsie, bien, c'est une manifestation qui complique de façon paroxystique, et je dis bien paroxystique, le terme est bien choisi, les manifestations de l'hypertension artérielle et des troubles rénovasculaires au cours de la grossesse. Alors, j'ai utilisé des termes un peu techniques, mais c'est la manière la plus simple de dire la chose. Alors, pour être plus expressif, je vais dire que au cours de la grossesse, il y a des manifestations qui sont liées aux troubles de l'attention qui entraînent l'élévation de la tension artérielle chez la femme enceinte. À part ces troubles qui entraînent l'élévation de la tension artérielle, il y a d'autres troubles qui sont liés à une anomalie au niveau du rein qui favorise la fuite à travers les urines de ce qu'on appelle l'albumine. Et donc, cela provoque également des risques d'élévation de la tension artérielle chez la femme enceinte. Et donc, ces deux situations-là et peut-être d'autres manifestations, parce qu'il y a certaines maladies chroniques qui aussi donnent une hypertension artérielle et des troubles rénovasculaires. Et ce sont ces maladies donc qui vont se compliquer de façon brutale, de façon inattendue, de ce que l'on appelle l'éclampsie. Et cette éclampsie donc va se manifester par des convulsions chez la femme enceinte ou bien l'accouchée récente.
Alors, docteur, vous aviez dit que la crise d'éclampsie se traduit par des crises convulsives. Alors, c'est quoi une crise convulsive?
Alors, en définissant tout à l'heure l'éclampsie et en décrivant ces manifestations, effectivement, j'ai parlé des crises convulsives. Alors, les crises convulsives, encore appelées les convulsions, ce sont ces mouvements incontrôlés qui arrivent et qui sont liés à la contraction répétée, désordonnée de groupes musculaires différents du squelette humain. Donc, les groupes musculaires appartiennent à des endroits variés. Par exemple, il y a les groupes musculaires au niveau du bras, il y a des groupes musculaires au niveau de l'avant-bras, il y en a de la main, il y en a au niveau des cuisses, il y en a au niveau des mollets, des chevilles, des pieds, de la face, du dos, etc. Donc, vous voyez que lorsque ces muscles vont se mettre à se contracter de façon involontaire, de façon désordonnée, cela va donner des mouvements saccadés, complètement incontrôlés, et la personne va perdre son équilibre. Donc c'est ce qu'on appelle des convulsions. Et évidemment, plusieurs autres contextes peuvent justifier l'apparition de convulsions. Par exemple, en dehors de l'éclampsie, il y a la maladie commune connue pour induire des convulsions. Je veux parler de l'épilepsie, qui se différencie bien sûr de la pré-éclampsie par un certain nombre de manifestations. Et c'est l'épilepsie de type grand mal, souvent, qui donne des convulsions semblable à celle de l'éclampsie. Ici, cela commence par un grand cri et cela finit par une émission d'urine avec une amnésie totale de la crise. Donc, la personne qui a eu sa crise d'épilepsie ne se souvient pas du tout d'avoir eu quoi que ce soit. Il y a d'autres contextes qui donnent aussi des convulsions. Hein. N'oublions pas les encéphalopathies, donc les maladies de l'encéphale, les tumeurs cérébrales. Et n'oublions pas aussi la méningite qui donne des raideurs que l'on peut confondre à tout ce tableau.
Docteur, avant de continuer l'émission, je vous propose ceci. Nous avons demandé à quelques personnes qu'est-ce qu'elles souhaitent savoir sur le thème du jour. On les écoute.
Ce que j'aimerais savoir concernant l'éclampsie, c'est que faut-il faire pour pallier à l'éclampsie?
Ce que vous voulez savoir de l'éclampsie, ce sont les traitements qui peuvent être administrés aux femmes qui souffrent de cette pathologie, ainsi que les méthodes de prévention contre cette pathologie. Je voudrais aussi savoir les autres causes pouvant être à la base de l'éclampsie, à part la pression artérielle élevée, ainsi que la présence de protéines dans l'urine de la femme enceinte.
L'éclampsie, sincèrement, moi je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. C'est la première fois que j'entends le terme. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Personne n'en a souffert, m'en a parlé. Je crois que c'est l'occasion pour le spécialiste de m'éclairer sur la question. Donc je serais très heureux que le spécialiste m'explique tout sur cette maladie-là.
J'aimerais connaître les causes de ce mal, le traitement adapté pour en guérir, les complications qui peuvent émaner du non-traitement ou du traitement tardif de ce mal.
Docteur, avant de répondre aux différentes questions et préoccupations de nos concitoyens, je vous propose une pause musicale. Retour en studio, éclampsie, l'essentiel en thème facile, c'est bien sûr le thème du jour. Et nous en parlons en duplex avec Dr Videwono Kobla Gosu, il est gynécologue, obstétricien. Alors docteur, vous êtes là, dites-nous comment se manifeste l'éclampsie.
Je vais commencer par dire que en tant que gynécologue obstétricien, on ne souhaite pas du tout assister à une crise d'éclampsie, parce que c'est tout à fait évitable dans le contexte habituel où cela fait suite à une pré-éclampsie sévère. Donc c'est depuis la pré-éclampsie sévère que l'on devrait réagir et faire les soins qui sont du reste très efficaces pour empêcher la survenue de l'éclampsie. Donc l'éclampsie étant une complication de la pré-éclampsie sévère. Elle se manifeste par un certain nombre de signes. Il y a des signes avant-coureurs qui sont l'intensification des maux de tête, la vision floue, les sensations auditives. Puis, il y a la première phase qui est la phase de contracture musculaire qui va donner une révulsion des yeux. Donc, la personne, les yeux vont se tourner vers le haut. Il y aura une contraction des muscles du visage, des muscles du membre supérieur et de la main, ainsi que de tous les muscles du corps. Donc, la personne se raidit d'un coup et peut se retrouver donc en situation d'arrêt momentané de la respiration. Et c'est à ce moment que la personne pourrait aussi se mordre la langue, parce que la mâchoire va se contracter sur la langue si la langue était pendue. Alors, ensuite à ça, il va y avoir la phase des convulsions réelles, donc les convulsions proprement dites, où il y aura une contraction désordonnée de plusieurs groupes musculaires, ce qui va faire que la personne va avoir des mouvements saccadés, un peu comme lorsqu'on a des crises d'épilepsie. Et enfin, il y aura une phase résolutive qui va se terminer par la cessation complète de tout mouvement.
Docteur, vous disiez qu'il faut réagir dès la pré-éclampsie sévère pour éviter d'en arriver à la crise d'éclampsie. Alors, docteur, cela m'amène à vous demander ce que c'est que la toxémie gravidique, communément appelée pré-éclampsie.
La toxémie gravidique, c'est la vieille expression qui est passée un peu d'utilisation si on veut ces temps-ci. Alors donc la pré-éclampsie, c'est un tableau anormal, donc c'est un ensemble de signes anormaux qui apparaissent chez une femme enceinte. En général, elle intéresse la femme qui est enceinte pour la première fois et qui a déjà une grossesse qui dépasse les 5 premiers mois de grossesse, donc dans le troisième trimestre de la grossesse. Et cela associe essentiellement une hypertension artérielle. Donc lorsqu'on mesure la tension artérielle, les chiffres sont supérieurs à 140 mm de mercure pour la systolique, donc la tension la plus forte, que l'on appelle la maxima aussi, et 90 mm pour la tension diastolique, que l'on appelle la minima. En dehors de cette élévation de la tension artérielle, il y a une augmentation de l'excrétion urinaire de l'albumine, ce qui n'est pas normalement présent au cours de la grossesse, une excrétion qui dépasse un taux qui est significatif par 24 heures, qui est de 300 mg. Donc, lorsque la protéinurie est significative comme ça et que la tension est élevée, on parle de pré-éclampsie. Alors, on pourrait avoir associé à ces deux signes-là un gonflement des extrémités que l'on appelle communément les œdèmes. On remarque ça surtout au niveau du tibia ou au niveau des malléoles, donc au niveau des chevilles. Le visage est enflé et les doigts sont boudinés. Donc l'alliance devient trop serrée et la personne n'est plus très à l'aise avec les mouvements ordinaires de la main.
Docteur,
voilà ce que je peux dire globalement.
Oui.
Sur la pré-éclampsie.
Merci, docteur. Alors, dites-nous quels sont les facteurs prédisposants ou, si vous voulez, facilitant une crise d'éclampsie.
Alors, la crise d'éclampsie étant une complication paroxystique, elle n'est pas forcément prévisible. Donc, elle arrive des fois en dehors de tout contexte d'hypertension artérielle au cours de la grossesse, de l'accouchement ou bien des suites de couches immédiates. Par contre, habituellement,
oui,
étant une complication de la pré-éclampsie. Donc, on s'attend à une éclampsie lorsque l'on quitte la pré-éclampsie simple et on passe à la pré-éclampsie sévère que nous avons déjà décrite plus haut.
Oui.
Donc, lorsqu'une pré-éclampsie devient sévère, il faut prendre les mesures, il faut prendre des mesures thérapeutiques pour endiguer la sévérité, contrôler la pré-éclampsie. Ceci permet donc d'éviter d'aller vers l'éclampsie. Parmi ces mesures, il y a les mesures extrêmes comme l'arrêt de la grossesse, quel que soit le terme, lorsqu'on n'arrive pas à contrôler les chiffres tensionnels, et l'arrêt de la grossesse, quel que soit le moyen disponible, y compris la chirurgie, donc pratiquer une césarienne lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas accessible facilement. Voilà un peu ce qui est de facteurs prédisposants de l'éclampsie. Mais bon, il est plus intéressant ici de parler également des facteurs prédisposants à la pré-éclampsie, parce que c'est elle qui sera le facteur déclenchant. Donc, remarquons que déjà la pré-éclampsie se retrouve plus chez les femmes qui sont à leur première grossesse, le plus souvent. On a remarqué aussi que la faible exposition au sperme du père avant la grossesse pourrait être un facteur favorisant. Les spécialistes ont évoqué l'hypothèse d'une réaction immunitaire déclenchée par l'exposition aux antigènes du père de l'enfant par la mère. Les antécédents de pré-éclampsie chez la patiente ou dans sa famille, sa mère ou l'une de ses sœurs, sont des facteurs prédisposants. Il y a les maladies préexistantes comme l'obésité massive, l'hypertension artérielle chronique, une maladie rénale chronique comme une glomérulonéphrite ou un syndrome néphrotique, le syndrome des anticorps antiphospholipides, ou etc. Ce sont des maladies préexistantes qui pourraient favoriser l'apparition de la pré-éclampsie. Il y a la grossesse chez les femmes âgées de plus de 40 ans. Voilà pourquoi il est conseillé, entre autres, de ne pas porter une grossesse lorsqu'on a un âge mûr, comme la quarantaine et au-delà. Il y a la multiplicité des grossesses. Donc, le fait que ce soit une grossesse gémellaire ou plus à partir de deux fœtus, le risque d'avoir une pré-éclampsie est bien plus élevé que dans une grossesse ordinaire, simple, d'un seul fœtus.
Docteur, dites-nous quel doit être le comportement ou si vous voulez le mode de vie d'une femme enceinte qui a une hypertension chronique, c'est-à-dire une femme enceinte dont la tension artérielle était élevée bien avant la grossesse.
Alors, c'est une personne qui présente un facteur de risque d'avoir une pré-éclampsie. Et donc, son projet de grossesse ne doit pas être mené en dehors d'abord de son cardiologue. Parce que c'est une personne qui est suivie régulièrement pour son hypertension artérielle, je suppose.
Normalement. Si,
donc, cela devrait l'être. Lorsque la personne est une hypertendue chronique, dans l'idéal, sa grossesse doit être suivie en milieu spécialisé. Donc, elle ne devrait pas être suivie par un personnel de santé peu qualifié. Parce que désormais, effectivement, les risques de complications étant très élevés, il vaut mieux qu'elle soit dans un milieu assez spécialisé, donc qu'elle fasse ses consultations prénatales auprès d'un gynécologue obstétricien et qu'elle soit concomitamment suivie par un cardiologue pour que cela facilite le suivi et la gestion des différents paramètres qui permettent d'évaluer les risques de complications au cours de la grossesse. Donc une personne pareille doit aussi avoir des conseils diététiques pour avoir une alimentation qui lui permette de contrôler la prise du poids pendant la grossesse et d'être mieux suivi.
Alors, docteur, quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman?
Les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman. Alors, étant un état de complication aiguë, la chose la plus grave, c'est l'engagement du pronostic vital. Donc, il y a un risque de décès lié à l'asphyxie et lié également à la répétition des crises et à la prolongation du coma, à l'aggravation des autres atteintes au niveau du rein et au niveau du foie. Donc ça, c'est le pronostic le plus lourd. Mais il y a le pronostic, sinon on va dire les conséquences nosologiques, les conséquences liées à la maladie même, parce que cela augmente le risque de césarienne. Donc, une crise d'éclampsie, c'est pratiquement équivalent à une césarienne lorsque le fœtus est vivant et est viable. Donc, en général, quand l'enfant peut être récupéré, quand on a maîtrisé la crise, on fait une césarienne pour récupérer le bébé, puisque c'est la solution ultime qui permet d'obtenir l'amélioration considérable de l'état de santé de la mère. Donc, selon le nombre de crises, selon les complications qui vont arriver, la mère risque d'avoir des séquelles autant sur le plan neurologique que sur le plan hépatique ou sur le plan rénal, ce qui pourra toujours entraver sa récupération et la vie quotidienne après l'accouchement.
On ne saurait parler de santé de mère sans évoquer celle de l'enfant. Alors, dites-nous, quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur le bébé?
Alors,
docteur?
Yes. L'éclampsie peut avoir des conséquences et des répercussions sur le bébé. Évidemment, la première répercussion, c'est le risque de prématurité. Donc, le risque de naissance avant terme, qui est un risque certain quand la crise survient avant que la grossesse ne soit à terme, puisque la sentence est l'accouchement et souvent il y a un accouchement par césarienne. Donc, il y a le risque de prématurité et la prématurité veut dire un certain nombre de défauts d'adaptation. Puisque l'enfant n'est pas encore tout à fait prêt à naître et il pourrait avoir beaucoup de mal à survivre simplement. Et ça va engendrer donc un certain nombre de difficultés qui vont donner des maladies ou des états pathologiques au moment de la naissance et vont nécessiter des soins très intensifs. Alors, en dehors de ces problèmes de prématurité,
docteur,
il peut y avoir un décès fœtal lié aux crises convulsives ou bien un décès fœtal lié à d'autres complications qui s'ajoutent à l'éclampsie, puisque l'éclampsie n'est que l'une des complications de la pré-éclampsie. Il y a d'autres complications comme l'hématome rétroplacentaire qui pourraient s'ajouter d'ailleurs dans une certaine fréquence à l'éclampsie. Et donc, le fœtus risque de mourir au sein de la mère avant même d'avoir été accouché, soit prématurément ou non. Il y a les risques d'asphyxie fœtale au cours de la naissance. Si la crise survient pendant un travail d'accouchement normal ou sur une grossesse à terme. Donc, voilà un peu les répercussions que l'on peut rapidement mettre à l'actif de l'éclampsie sur le fœtus.
Docteur,
bien sûr, tout cela...
Allô? On sent que vous êtes fatigué. Nous allons vous permettre de vous reposer. Mais voilà, je vous laisse terminer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport peut-être à la prise en charge ou des conseils à donner à nos amis.
Alors, la prise en charge de la crise d'éclampsie est assez délicate. C'est un problème de réanimation et un problème d'obstétrique. Donc, il faut arrêter les convulsions et contrôler les chiffres tensionnels. Il faut également s'assurer des autres fonctions vitales comme au niveau des reins, de la perfusion des reins, de sorte qu'il y ait un rétablissement d'une diurèse correcte. Donc, il faut que l'émission des urines soit en quantité suffisante pour ce qui est des différents états anormaux les plus courants. Alors, à part cette réanimation, il y a l'accouchement. Peut-être avant de terminer sur cette réanimation, il faut parler aussi de l'arrêt des crises convulsives par l'utilisation des anticonvulsifants. On connaît le sulfate de magnésium comme un des anticonvulsivants les plus efficaces, qui marche très bien en cas de crise d'éclampsie et qui est indiqué également en cas de pré-éclampsie sévère. Et au-delà, donc lorsque le fœtus est vivant, eh bien, la césarienne est le mode d'accouchement qui est le plus indiqué pour pouvoir arrêter la grossesse à temps, permettre un élevage approprié du nouveau-né et continuer les soins de la mère dans le milieu spécialisé qui correspond, y compris dans un service de soins intensifs que l'on appelle service de réanimation médicale habituellement.
Voilà, nous avons retenu. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous allons vous laisser vous reposer. Et il faut dire que le temps est complètement passé. Mon technicien, mon réalisateur, Tibus Arirenou, me signale cela depuis un bon moment déjà. Éclampsie, l'essentiel, la savoir en thème facile, c'était le terme de ce jour. Et pour en parler, nous avons eu en duplex docteur Videwenu Komla Gosu. Il est gynécologue et responsable de la clinique Sévi, située à Gbegroumédé, à Cotonou au Bénin. Merci pour votre aimable attention. À très vite.